Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour, bienvenue pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI dans les studios de la Commission européenne du Berlaymont en compagnie d'une commissaire hyper connectée. Alors, surfeur sur le web, abonné aux réseaux sociaux, smartphone dépendant, eh bien, notre invitée va vous intéresser car il s'agit de Maria Gabriel qui est en charge de l'économie et de la société numérique. Bonjour Maria.
Bonjour.
Vous êtes née en Bulgarie et c'est en France que vous déployez votre goût pour les affaires européennes en enseignant à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. En 2009, vous entrez au Parlement européen où vous êtes élue sur la liste GERB, le Parti des citoyens pour le développement européen de la Bulgarie. Une formation conservatrice à laquelle appartient l'actuel Premier ministre bulgare, Boyko Borisov. Vous entrez à la Commission en juillet 2017 pour vous occuper donc du numérique.
D'ailleurs, on a envie de vous demander quand même, une commissaire au numérique, Madame Gabriel, Facebook, Twitter, Instagram, est-ce que vous êtes fervente de ces plateformes ?
Les réseaux sociaux font partie maintenant de notre vie quotidienne. C'est des canaux de communication et je l'utilise à ces fins-là.
C'est-à-dire, vous êtes sur Twitter
Suis sur Twitter, je suis sur Facebook, mais encore une fois, je reste adepte d'une approche qui a recours à ces plateformes pour pouvoir mieux communiquer, pour toucher plus de personnes avec ce qu'on fait, mais en même temps de bien préserver du temps précieux pour des choses que les machines et les plateformes ne peuvent pas remplacer.
Alors vous avez noté récemment les géants du web sur leur effort pour lutter contre les fausses nouvelles, les intox, avec un code de bonne conduite qui a été mis en place dès 2018, l'an dernier. Donc pour l'instant, vous estimez que le compte n'y est pas et vous leur avez dit. Pourquoi ?
Des progrès sont là, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà le résumé des 4 premiers mois, parce que rappelez-vous, oui, ils ont proposé le code en septembre, mais jusqu'à la fin de décembre, j'ai leur proposé de nous montrer que ça peut marcher. Les premiers rapports sont très clairs. Il y a des applications qui commencent à être mises en œuvre, des instruments à la disposition, à la fois des citoyens, mais aussi des chercheurs. Un premier souci que nous avons, c'est que ce n'est pas disponible à l'ensemble des États membres. Si vous avez une fonctionnalité qui englobe seulement 6-7 États membres, alors qu'on essaie tout le temps de dire que la désinformation ne connaît pas de frontières, je vois difficilement.
Pour supprimer ces fausses nouvelles, comment ça marche exactement ?
Il y a une fonctionnalité qui vous donne le contexte, par exemple, de l'article pour que vous puissiez rapidement vous rendre compte si c'est une fake news ou pas, de connaître l'auteur, de connaître la bonne chronologie. Par exemple, cette fonctionnalité, elle existe pour 6 ou 7 États membres. Or, on voudrait l'avoir pour l'ensemble des États membres. Deuxième chose, le mot-clé transparence, notamment lorsqu'on parle de la publicité politique et le contenu sponsorisé. Or, dans les premiers rapports qu'ils nous ont rendus, on s'aperçoit que la publicité politique, elle est traitée uniquement dans le cadre où c'est directement commandé et lié à un parti politique. Non, nous sommes bien conscients que pour des fins politiques, la publicité politique peut ne pas être ordonnée ou commandée ou façonnée par des partis politiques. Donc voilà, ce sont des exemples très précis. Maintenant, je voudrais vraiment les remercier parce qu'il y a un effort qui est fait. N'oublions pas, code première initiative dans le monde, premier rapport. Et maintenant, jusqu'au mois de mai, le monitoring sera mensuel. Chaque mois, nous allons évaluer les progrès qui sont faits par rapport à des indicateurs que j'aimerais encore voir plus précis.
Alors bien sûr, ces manipulations, ces infox, elles nous font particulièrement peur dans le contexte des élections parlementaires européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments concrets qui vous font craindre ces manipulations, notamment de la part des usines à trolls qui se trouvent en Russie et qui ont déjà suscité pas mal de réactions en Europe, mais aussi dans le reste du monde?
Nous n'avons pas de données concrètes, mais est-ce qu'il faut vraiment les attendre en sachant comment ça marche, les fake news, et qu'ils vous mettent devant un fait accompli? Non. C'est pour ça qu'il faut anticiper, c'est pour ça que nous avons proposé quelques mesures qui pour nous vont s'avérer clés. D'abord, rappelez-vous, au mois de septembre 2018, nous avons proposé à ce qu'il y ait une coopération étroite entre les autorités pour la protection des données personnelles et les commissions électorales nationales pour qu'à tout moment, les citoyens puissent donner leur consentement si les données doivent ou il y a une envie de les utiliser. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une analyse ou parce qu'on essaie de vous changer le flux d'informations, vous devez savoir ce qui se passe avec vos données. En même temps, au mois de décembre, le plan d'action que nous avons publié, il était très clair. D'ici le mois de mars, on voudrait établir un système de réaction rapide. Chaque État membre, d'ici le mois de mars, doit désigner un point de contact national pour qu'ensuite, ensemble avec la Commission, les institutions européennes, on puisse faire une simulation au mois d'avril et se rendre compte à quel point nous sommes préparés de réagir en temps réel, en termes d'échange d'informations, en termes de prévention, et avoir ainsi une réaction plus solide.
Mais est-ce que les plateformes, les géants du web, jouent pleinement le jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'ils, s'ils ne font rien précisément pour éliminer les infox, mieux signaler les publicités politiques avant le démarrage de cette fameuse campagne des européennes, est-ce que vous allez aller jusqu'à les contraindre par une loi? Parce qu'on a une loi anti-fake news en France depuis décembre 2018 qui permet de saisir le juge et qui permet de faire éliminer des contenus.
Alors, nous avons été toujours très clairs. Maintenant, l'évaluation et les progrès avec le code vont nous donner une indication s'il faut aller plus loin et s'il faut proposer des mesures législatives. Oui, ça a été très clairement dit. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est sur des indicateurs bien précis quels vont être les progrès. Nous avons parlé de la transparence et du contenu politique, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec les fake accounts, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec les bots, je voudrais avoir plus d'instruments à la disposition des citoyens pour qu'eux, ils puissent faire leur choix informé. Personne n'a l'intention d'instaurer un ministère de la vérité, encore renforcer une censure. Non, non, ça reste toujours ma ligne rouge, sauvegarder la liberté d'expression, la liberté et le droit d'accès à l'information. Mais pour cela, nous avons besoin de ces indicateurs clairs. Rappelez-vous, on ne pouvait pas proposer une législation il y a un an et demi, puisque nous n'avions pas toutes ces données que nous sommes en train maintenant et d'avoir, mais aussi de recevoir. Là, ça nous donne un aperçu beaucoup plus approfondi si on doit faire maintenant marche à la prochaine étape.
Alors, c'est Facebook qui a été vraiment sur la sellette l'an dernier, ou enfin les années précédentes, à cause du rôle qu'il a pu jouer dans le référendum du Brexit, les élections présidentielles américaines. Facebook, qui aujourd'hui joue au bon élève, il a recruté le Britannique Nick Clegg, ancien vice-premier ministre, pour faire du lobbying auprès des autorités européennes. Et dans sa première intervention à Bruxelles, il a présenté un plan pour encadrer cette publicité politique. Les demandes seront vérifiées et il y aura des informations sur l'identité de ceux qui achètent cette publicité, des informations qui resteront en ligne. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous estimez que Facebook va dans le bon sens?
Je n'ai pas changé ma position. J'attends de voir des résultats et des actions. Les belles déclarations, c'est positif, d'accord. Passons à l'étape suivante, voir des résultats, voir des mesures. Et quand on parle de la publicité politique, ce n'est pas le cas dans le premier rapport, y compris que le Facebook a fait.
D'autant que Nick Clegg en profite de cette tribune qu'il a pour dire qu'il va avec vous finalement avoir ce dialogue et peut-être même décider des mesures à prendre. Enfin, c'est pas tout à fait traditionnel.
Moi, j'apprécie ce dialogue que j'ai avec eux parce que rappelez-vous, oui, c'est eux qui ont rappelé le code, mais il y a eu des engagements très personnalisés dans le code, tout simplement parce que nous voulions prendre en considération l'extrême diversité de leurs services, de leurs produits. C'est pas du tout les mêmes. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement des résultats.
Mais ils n'écrivent pas la réglementation européenne. Facebook était opposé à toute réglementation et maintenant, ils sont en train de rétro-pédaler et de dire non, mais on veut bien participer à l'élaboration de la réglementation.
Mais le code, c'est un self-regulation. Ce n'est pas une législation. Il faut faire très attention par rapport à ça. L'autorégulation, c'est une mesure volontaire qui n'est pas inscrite dans un texte législatif. Une grande différence. Mais n'empêche, même quand on regarde ce qui se passe dans le reste du monde, c'est la première fois qu'un tel code de bonne pratique a pu être mis en place. Jamais on aurait cru qu'on serait capable de le faire il y a 2 ans.
Alors, une autre affaire aujourd'hui préoccupe les Européens, c'est les accusations portées contre le numéro 1 chinois des télécoms Huawei. Eh bien, il est accusé d'espionnage par les États-Unis. Cette procédure sème le trouble parmi tous ceux qui comptent sur Huawei pour le déploiement de la 5G. Comment l'Europe gère-t-elle ce partenaire devenu si embarrassant ? Des précisions avec Anaïs Guérard.
Un amendement européen anti-Huawei. La Pologne appelle à exclure le leader chinois de la téléphonie des marchés publics européens. En cause des soupçons d'espionnage qui tombent mal. L'UE ambitionnait le développement avec Huawei de la 5G au cours de l'année 2020. Son interdiction pourrait engendrer un retard technologique de 2 à 3 ans en Europe. Une situation de faiblesse face aux États-Unis et à la Chine. Néanmoins, l'UE prend les accusations américaines d'espionnage au sérieux et demande des preuves de bonne foi à Huawei. Angela Merkel.
Nous devons parler à la Chine pour nous assurer que les entreprises ne transmettent pas l'ensemble des données à l'État chinois. Il faut des garde-fous. Si vous travaillez en Allemagne, l'État chinois ne doit pas pouvoir accéder aux données stockées sur des produits chinois.
La Commission européenne devrait se prononcer sur Huawei fin février, en marge du Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont, eux, d'ores et déjà restreint leur marché 5G pour cet opérateur.
Alors, Maria Gabrielle, est-ce que aujourd'hui la Commission envisage de bannir Huawei des marchés publics européens ?
C'était très clair dans ça. Nous regardons de près comment la situation évolue. Force est de constater que pour nous, la cybersécurité, la sécurité des citoyens est une priorité numéro un. Dès lors, y compris quand on porte le regard sur la 5G, parce que ça sera stratégique. Et c'est pour cela que nous avons fait le nécessaire avec la proposition législative concernant la cybersécurité, avec un système de certification, avec une agence ENISA renforcée, avec un mécanisme de coordination entre les États membres en cas de ce type d'attaque à large échelle. Nous ne pouvons pas interdire à des compagnies en dehors de l'Europe d'être sur le marché européen, rappelez-vous.
Et les marchés publics en particulier.
Mais attention, je rappelle ce que le président Juncker a dit dans son discours sur l'état de l'Union. L'Europe est ouverte, mais elle n'est pas offerte. Il a des standards, il a des critères qui doivent être respectés. Et nous allons continuer à suivre ça avec la plus grande vigilance.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté ? On reproche souvent aux Européens leur naïveté, en particulier face aux pratiques d'espionnage.
Ça dépend de qui ? La sécurité nationale, c'est une compétence des États membres. Y compris maintenant, nous avons des États membres, avec la compagnie qui est citée, qui ont déjà ouvert leur marché à cette entreprise. Ce n'est pas une compétence de la Commission. En revanche, voilà. Maintenant, la question est posée que ça peut nous concerner, nous tous. Il s'agit de notre autonomie stratégique. Nous devons vraiment suivre ces questions de près et ne pas hésiter à ce moment à poser des conditions, des critères très clairs.
Alors, au sujet des compétences de la Commission, aujourd'hui, elles sont remises en cause par les gouvernements allemands et français qui sont formés content parce que votre collègue chargée de la concurrence, elle va rejeter cette fusion Alstom-Siemens, les deux constructeurs ferroviaires qui voulaient s'allier justement pour être plus forts sur les marchés mondiaux face à leurs concurrents chinois. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir les mandats de la commission pour la prochaine commission, par exemple, pour que ce soit une commission à même d'aider à l'émergence de champions européens ?
Connaissant la manière dont la Commission, et en particulier la commissaire Vestager, prennent les décisions, j'ai vraiment tendance à dire, regardons la situation dans toute sa complexité et soyons raisonnables pour pouvoir comprendre les raisons, qui sont des raisons qui ne sont jamais des raisons court terme. C'est ça la force de la Commission, qui parfois est aussi sa faiblesse.
C'est justement ce que disaient Alstom et Siemens, que eux, ils sont pas sur le court terme, ils sont sur le long terme. Ils pensent que après-demain, les Chinois pourraient être des concurrents redoutables.
Nous le savons dès à présent que les Chinois, les États-Unis, le Japon peuvent être des concurrents redoutables. Mais nous essayons en même temps de mettre en avant une approche européenne qui se différencie clairement de celle des autres. Donc moi, je pense qu'il faut avoir aussi le courage de temps en temps, même si le bénéfice n'apparaît pas immédiatement dans le court terme, d'avoir le courage de rester ferme et de défendre ses principes et ses valeurs.
Alors parlons d'un chapitre évidemment qui est très prédominant dans effectivement cette actualité européenne, le Brexit, un Brexit peut-être dur qui se profile d'ailleurs, avec le départ des Britanniques, départ peut-être de plusieurs organisations de coopération. Est-ce que cette coopération en matière de cybersécurité va être affaiblie? C'est un vrai questionnement.
C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que nous avons une excellente coopération dès lors qu'on partage des bases de données. C'est pas seulement la cybersécurité, mais c'est aussi tout ce qui est le contenu illégal, le contenu terroriste, mais aussi plein d'autres questions liées à notre sécurité. Ce qui sera vraiment important maintenant de nous dire, ne gâchons pas cette chance d'avoir une coopération qui porte de bénéfices des deux côtés. Et c'est pour cela qu'il faut tout simplement rester très, très vigilant les deux prochains mois. Particulièrement, j'aimerais vraiment qu'on n'arrive pas à un moment où on ne peut pas compter sur des bases de données et l'échange, surtout de ces données, parce que la plupart des situations concernant ces bases de données, ce sont des situations qui exigent une réaction immédiate.
Alors, dans l'actualité de la semaine, on a vu aussi les Britanniques bouleversés par le suicide d'une adolescente de 14 ans. Son père accuse Instagram d'avoir aidé à tuer sa fille en mettant à sa disposition des images liées à l'automutilation, à la dépression, au suicide. Est-ce qu'Instagram doit supprimer ce type de contenu? Que faut-il faire face à ces dangers?
C'est en effet une problématique préoccupante. Aujourd'hui, un utilisateur sur trois sur Internet est un enfant. En même temps, la moitié de nos adolescents disent qu'ils ont déjà été confrontés à un de ces risques, le harcèlement jusqu'à cyberbullying ou le mobbing. Donc aujourd'hui, il est plus que nécessaire de rester mobilisé à tous les niveaux. Il y a de la responsabilité pour les plateformes et dans ce cas, pour moi, ce qui est important, c'est que nous avons créé il y a 18 mois l'Alliance pour la protection des mineurs. Il y a 40 compagnies qui font partie, des plus grands jusqu'aux plus petits. Maintenant, 18 mois plus tard, il est temps d'intensifier nos efforts, il est temps d'avoir des pratiques qui soient au niveau européen et que ces pratiques puissent être partagées le plus rapidement possible. Ça appelle à leur responsabilité. En même temps, ce n'est pas suffisant. Des campagnes d'information doivent constamment attirer l'attention de nos jeunes, mais aussi des parents et des enseignants. Pour moi, il y a un triangle ici qui est absolument fondamental. Nous avons commencé une campagne Safer Internet for EU l'année dernière. Nous avons pu toucher plus de 15 500 écoles. Nous avons pu toucher plus de 30 millions de citoyens. Il faut que cela continue. Encore la semaine du 5 février, qui est le Safer Internet Day, j'ai vraiment consacré mon temps à rencontrer des jeunes, à leur parler de ces menaces, de ces dangers. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes ont conscience. Mais ils ne se confient pas facilement. Ils veulent savoir plus et surtout ils posent les bonnes questions. Quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que de plus en plus on observe des jeunes qui eux-mêmes ont envie d'aider les plus jeunes. Peut-être, voilà, les parents et les enseignants, ce sont pas les premiers qui inspirent tellement confiance, mais il y a de plus en plus aussi de groupes de jeunes comme ça qui se mettent en avant. Et je penserai toujours à, nous avons établi un prix européen qui donne la possibilité à des jeunes de montrer en quoi ils contribuent pour que l'Internet soit un endroit plus sûr. Et nous avons des exemples qui sont extraordinaires. Maintenant, il faut leur donner de la visibilité.
En 2016, vous avez d'ailleurs mis en place un autre code de bonne conduite sur les contenus haineux, notamment racistes, xénophobes. Et là, vous avez l'impression que ça marche parce qu'on dit que finalement, sous 24 heures, on arrive à supprimer deux tiers de ces contenus haineux.
Après avoir fait une communication en septembre 2017, ensuite une recommandation en mars 2018 et une proposition législative sur le contenu terroriste en septembre 2018, on observe une belle augmentation des résultats.
Merci Maria Gabriel d'avoir été notre invitée aujourd'hui.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'information sur France 24 ou sur Radio France Internationale.